Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à notre rencontre de ce soir. En les Bouddhas, Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'en grand refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Ce soir, nous allons parler, réfléchir, considérer, expérimenter quatre méditations que l'on dit fondamentales, des méditations sur quatre notions essentielles qui ont pour fonction de transformer notre mentalité. Ces quatre méditations fondamentales sont les bases, les fondements de tous les enseignements. Le propos de ces prises de conscience, c'est bien ce dont il s'agit, est d'opérer un changement de mentalité, de passer d'une mentalité d'attachement, de saisie, à une mentalité de liberté tournée vers l'éveil. Elles opèrent un retournement, un changement d'attitude, un changement de mentalité. Ces quatre méditations, notions fondamentales, sont la méditation sur ce que l'on nomme la précieuse existence humaine, puis deux sur l'impermanence, la mort, puis trois sur le karma et quatre sur le samsara. La première, la considération de notre existence dans ce qu'elle est de précieux, est une méditation sur le sens de la vie. Comment donner sens à notre vie et comprendre que nous sommes les ressources qui permettent de vraiment donner sens à cette existence en accomplissant ce qui est bon tant pour soi que pour les autres. Cette méditation sur le sens de la vie développe aussi de la confiance en soi. Nous avons les ressources pour nous éveiller. Nous avons les ressources pour faire en sorte que notre vie soit pleine de sens, bonne, utile. Tout cela amène une confiance en soi, en ses ressources, en la vie. Quand on dit confiance en soi, c'est pas confiance en son ego, mais une confiance fondamentale en les ressources de la vie et de cette existence humaine que nous sommes. la précieuse existence humaine. Précieuse car rare, et ce qui est rare est précieux. Donc, les enseignements traditionnels développent les libertés, les qualifications de cette vie. Elle est nommée littéralement la précieuse vie humaine libre et qualifiée. Libre, doté de liberté, et qualifié, doté des qualités requises pour l'éveil. Alors, libre, elle est libre de plein d'états en lesquels justement l'on est assujetti, prisonnier, possédé. Nous sommes libres. Nous avons la liberté de cheminer, nous avons la liberté de pratiquer. Nous le pouvons. Yes, we can. Et cette vie humaine, en plus, est qualifiée, hein, aussi bien nous personnellement que dans l'environnement, il y a toutes les ressources pour cheminer et pour s'éveiller. Et il est important d'en prendre conscience, d'examiner cette situation. Il y a des listes, vous pourrez les considérer. D'en prendre conscience, car cela nous, justement, donne confiance. C'est possible, nous le pouvons. Ça ne tient qu'à nous. Et cette situation est exceptionnelle. L'existence humaine est rarissime dans l'océan des possibles des existences. Et même au sein des existences humaines, il y a des existences humaines banales, des existences humaines mauvaises et des existences humaines bonnes. Banales, rien de très bon, rien de très mauvais. Mauvaises, qui se consacrent à des activités ou des comportements malsains. Et bonne, la bonne existence humaine est celle justement qui s'est donné sens à sa vie et qui sait devenir le support d'un cheminement d'éveil bon pour tous. Et nous avons toutes ces ressources dans la précieuse existence humaine, car nous avons au fond de nous la santé fondamentale. Nous sommes sains avant d'être malades. C'est toujours le cas. La maladie est un dérèglement secondaire. Et nous avons cette santé avant d'être contaminés par la maladie des illusions et des passions. Nous y reviendrons. La deuxième méditation fondamentale est sur l'impermanence. Le caractère éphémère et transitoire de toute chose. C'est une réalité naturelle, universelle. Tout change d'instant en instant, les galaxies, le monde, la planète, dans ce qui est grand, dans ce qui est petit, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, est en continuel et perpétuel mouvement. Dans notre situation personnelle, prendre conscience de l'impermanence est très important, car nous avons une propension, on pourrait dire psychologique, une tendance à ne pas percevoir la réalité de l'impermanence, à nous considérer comme stable, autonome, indépendant. Autour de nous, tout change. Ce qui est érigé finit par s'écrouler, ce qui est accumulé finit par s'épuiser, ce qui est rassemblé finit par se séparer, ce qui est né finit par mourir. Et un aspect particulièrement important de l'impermanence est la réalité de la mort, de méditer sur et de prendre conscience de ce que nous sommes impermanents et que nous allons bientôt mourir. Bientôt, on n'est pas pressé. C'est vrai, on n'est pas pressé. Mais néanmoins, bientôt. Tout à l'heure, dans la méditation, nous avons chanter cette phrase dans laquelle « Même moi, bientôt je mourrai. » Et il s'agit justement de se rappeler que même moi, qui que nous soyons, bientôt je serai mort. Le moment de la mort est incertain, les causes de mort sont multiples. Nul n'est sûr d'être en vie, ne serait-ce encore demain. Nous connaissons tous de nos semblables qui ne sont plus, qui avaient notre âge, notre situation. C'est une façon de la méditation sur l'impermanence est une façon de se recentrer sur l'essentiel. Donner sens à notre vie, nous disions tout à l'heure, et le faire maintenant, alors que nous le pouvons. Car après, c'est incertain. La méditation sur l'impermanence est une façon de hiérarchiser les priorités de notre vie par rapport à l'essentiel. Et c'est une méditation libératrice. Il y a un problème de société aujourd'hui qui est le déni de la mort. On parle librement de beaucoup de choses, de sexe, d'argent, de pouvoir. Mais la mort, il y a un déni, une occultation. Elle est reléguée dans le service spécialisé de l'hôpital avec une sortie spéciale. Et la méditation sur la mort permet d'entrer dans l'expérience de cette réalité maintenant et par là même de bien vivre, de bien utiliser notre vie et de ne pas être au moment inéluctable surpris par l'échéance inévitable avec tout le traumatisme que souvent cela peut avoir. La troisième de ces méditations est sur ce que l'on nomme le karma. C'est-à-dire le fait que tous les actes que nous faisons ont des conséquences. Mais de telle façon que nous récoltons ce que nous semons. Tout ce qui est semé se récolte et il n'est rien qui se récolte qui n'ait été semé. Il y a cette causalité, cet enchaînement entre les causes et les conséquences des actes, c'est ce que l'on nomme le karma. La méditation sur le karma et la compréhension du karma sont foncièrement une méditation sur la liberté et la responsabilité. Il est important de bien insister là-dessus, sur la responsabilité. Nous sommes responsables car nous sommes libres. Nous sommes responsables de notre vie, nous sommes responsables de notre avenir, nous avons une responsabilité personnelle et nous avons une responsabilité universelle. Mais nous sommes responsables car nous sommes libres, relativement libres. Je ne dis pas que nous soyons complètement libres. Nous avons tous des tendances, des propensions qui nous poussent, qui nous tiennent prisonniers, qui nous emprisonnent. Mais néanmoins, nous avons toujours une liberté, plus ou moins grande, mais nous avons toujours une part de liberté. Et le point ici est d'apprendre à bien utiliser cette liberté à chaque instant dans une attention, vigilance de chaque instant pour continuellement aller dans la bonne direction, utiliser cette part de liberté qui est en nous vers la santé. Vers la santé plutôt que vers la névrose. Donc, responsabilité et liberté. Et il est d'autant plus important d'insister que le karma est une notion en Occident qui est souvent mal comprise, avec toutes sortes de déviations plus ou moins fatalistes certaines fois, ou déterministes. Non, c'est l'enseignement sur la liberté et la responsabilité. Ce qui nous incite à vivre d'une façon saine et responsable, dans une forme d'éthique, non pas d'argument d'autorité, mais de santé. Des règles de vie saines, en cultivant les comportements sains, qui sont source de bien-être et de bonheur, et en évitant les malsains, qui sont source de mal-être et de souffrance. La quatrième méditation, la quatrième notion fondamentale est ce que l'on nomme samsara. Samsara signifie le cycle de la conscience, ou la roue des états multiples de la conscience. C'est-à-dire de tous les états dans lesquels nous vivons, tous les états dans lesquels nous passons continuellement. Nous sommes des passants. C'est une façon de dire aussi l'impermanence. Je ne fais que passer. La vie passe, l'on passe. L'on passe d'état de conscience à état de conscience. C'est le samsara. Et l'on peut, il s'agit de comprendre que dans les conditionnements de la conscience habituelle, dans ses illusions et ses passions, ne se trouve pas le bonheur véritable. Et le propos de cette méditation est d'aspirer à se libérer des illusions, passions, souffrances de la conscience habituelle pour accéder au bonheur authentique, à la libération. C'est une méditation sur la libération. Il s'agit de se libérer des illusions, passions, souffrances de l'existence habituelle. Et cette voie de la libération est la façon par excellence de donner à sa vie tout son sens pour le bien et le bonheur de tous, le sien et celui d'autrui. Donc voici très brièvement ces quatre méditations fondamentales. Il est très important de les porter en soi. Il n'y a là rien de bien compliqué. Mais ces méditations sont à entretenir quotidiennement. Et c'est en les cultivant, en les ressassant, en les rabâchant, en se familiarisant avec celles-ci, en les portant en soi, qu'elles, petit à petit, peuvent transformer notre mentalité. Qu'elles peuvent transformer notre mentalité et convertir, en quelque sorte, notre mentalité. Ou même révolutionner notre mentalité, notre état d'esprit. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des observations ou des questions sur ces quatre méditations ? Vajradhara Kaloranjan Kintyam commençait presque systématiquement ses enseignements par ces quatre méditations fondamentales. Et au bout d'un certain temps, il y avait de ses disciples qui disaient « Rinpoche, on a compris ». Je sais que vous les avez entendus, mais je pourrais aisément vous parler de toutes sortes de choses nouvelles chaque jour. Mais aussi longtemps que l'on n'a pas véritablement intégré ces quatre notions, des pratiques compliquées ou des considérations élaborées n'ont pas beaucoup de sens. Donc, ces quatre méditations ont le pouvoir de nous rendre réceptifs à l'enseignement, disponibles, et elles préparent le terrain. Dans un terrain, un sol bien préparé, la graine prend aisément. Sur une route bien préparée, l'on peut rouler facilement. Donc, elles sont, pour cette raison, ce que l'on nomme des préparations, des nundo en tibétain, et les préparations ou les préliminaires communs à toutes les voies. Très important. S'il n'y a pas de remarques particulières, je vais vous inviter à ce que nous méditions justement sur ces quatre méditations fondamentales. Derin,
bonsoir Rinpoche. Le Sangha Loka de Lyon avec nous. Mais ce soir, il y a beaucoup de perturbations, il semble, avec l'Internet, il y a beaucoup de coupures.
Bonsoir les Lyonnais. Il y a des intempéries, oui.
Il y a une question, et je pense qui avait été posée en fait avant cette soirée, mais que je pense pourrait être liée au sujet. C'est une question de Simon de Dinan qui demande en fait comment contourner la procrastination quand celle-ci remet toujours à plus tard la pratique des enseignements que j'aimerais mettre en œuvre. Donc procrastination, ça veut dire remettre au lendemain.
En méditant sur la permanence et la mort.
Mais là, peut-être je peux en rajouter un petit peu. C'est, moi, je l'entends depuis un certain temps, mais des fois, la procrastination, elle est bien plus forte. Cette tendance à l'inertie, même en sachant qu'il y a la mort, ça veut dire qu'on n'a pas intégré. Mais comment intégrer cette notion-là pour vraiment avoir cette motivation et cet élan ?
Reprenez une dose.
Mais comment ?
Une dose.
Il faut penser à la
de
mort.
De méditation sur l'impermanence et la mort, en le faisant vraiment. Il ne s'agit pas d'avoir comme ça, et tous les hommes sont mortels, je suis humain, donc je suis mortel, ce genre de raisonnement intellectuel. Mais d'en prendre vraiment conscience et chaque fois que l'on voit la mort, que l'on entend parler de la mort, que l'on pense à celle-ci, le mot mort est le mot qui apparaît le plus souvent dans l'actualité. Il y a des statistiques qui ont été faites sur les occurrences des mots. Donc, si vous lisez les actualités, mort revient extrêmement fréquemment. Il y a une banalisation, finalement, de la mort. Donc, plutôt que la mort soit celle des autres, de se rendre compte que moi aussi, ça va m'arriver, et que ce soit à chaque fois un rappel pour nous. Il y a aussi un cartoon qu'il faudrait ressortir et mettre même ici à la porte. C'est on voit, je ne vais pas tout raconter, mais d'abord il y a un petit bébé trop agité pour méditer. Après, on voit un enfant avec une moto trop turbulent pour méditer. Après, on voit un ado très amoureux, trop amoureux pour méditer. Et puis après, quelqu'un qui travaille dur, tout busy, trop occupé pour méditer. Et puis après, il y a trop fatigué pour méditer. Et puis après, on voit le corbillard, trop tard pour méditer. Voilà. Now, maintenant. Maintenant, c'est possible et c'est maintenant le moment. S'il vous plaît.
Une question de Zangmo du Sangha Loka de Lyon. Vous parlez de méditation, ça l'interroge. Est-ce que ce ne serait pas plutôt des questionnements?
Oui. Ces quatre méditations sont quatre considérations, quatre questionnements, quatre examens. C'est le sens de méditation classique français. Hein, si vous regardez dans votre dictionnaire français, c'est le sens habituel de méditation. Alors, dans le Dharma, on emploie méditation aussi pour parler de la pleine conscience ou la pleine présence. Mais c'est un sens particulier. Là, on utilise méditation au sens de réflexion, de considération, de prise de conscience et aussi d'assimilation profonde d'une réalité. C'est très fort le sens français courant. Qui est-ce qui avait demandé la parole? On passe, s'il vous plaît.
C'était pour témoigner d'une période de vie, d'eux en particulier.
Une de vie de?
De deux périodes de ma vie. Une première très angoissée, très parano, persuadé que j'allais mourir à chaque instant, à chaque événement, chaque chose qui se passe, chaque événement qui changeait. Donc très dur à vivre. Mais paradoxalement, en sortant de tout ça, une grande confiance et aussi une confiance de fond, mais aussi une valeur pour la vie, une valeur très profonde, un grand respect, mais aussi vraiment un grand sens de l'importance de la vie qui s'est développée. Et plus particulièrement, c'est l'année dernière, alors que j'étais en proie à beaucoup de doutes, d'attaches, alors que j'avais des projets, je voulais faire mettre des choses à bien, notamment un souhait d'une pratique intensive, mais attache familiale, attache sentimentale, attache de situation. Et ces attaches, là, on les comprend vraiment le sens illusoire, parce qu'il y a beau avoir ces attaches, il y a tout qui a foutu le camp complètement. J'ai perdu plusieurs de mes proches. J'ai ensuite mis un terme à une relation. J'ai perdu ma situation, mon appartement. J'ai vraiment tout perdu. Et quand j'ai tout perdu, en fait, je me suis rendu compte d'une chose primordiale que j'avais mis de côté depuis longtemps, que je ne pouvais pas voir vu que j'étais trop occupé à essayer de me débattre dans tout ça. C'est que j'étais libre et non engagé, dans le sens de non redevable à qui que ce soit. et que je pouvais pleinement m'engager dans ce qui me tenait à cœur, dans ce qui avait du sens pour moi. Et en retrouvant cette liberté, petit à petit, j'ai pu avoir beaucoup plus confiance. Et la mort, même s'il y en a une crainte, il y en a aussi un profond respect. Et en ayant laissé mourir tous ces doutes et toutes ces attaches, je vis pleinement maintenant.
Très bien, une bonne méditation. Et c'est Milarepa qui disait la crainte de la mort me fit entrer sur la voie. C'est sa présence qui me fit pratiquer avec une diligence complète. Aujourd'hui, elle est la compagne avec laquelle je vis en béatitude. Je vous propose un moment d'Erine revient.
C'est un peu difficile, il y a beaucoup de questions, mais elles sont...
Donnez juste la quintessence, s'il
vous
plaît.
Très bien, oui. En fait, c'est toujours ce problème du déclencheur pour être capable de commencer à se mettre à la recherche de l'éveil, pour être capable de méditer. Ça, c'est quelque chose qui est difficile, même si en fait vous avez déjà donné la réponse, mais vraiment c'est ce qui émerge des chats en fait.
Le déclencheur. Si l'on attend d'être déclenché,
on ne se déclenche pas.
C'est bien de se déclencher, et on se déclenche avec justement ces méditations fondamentales, donner sens à sa vie, et c'est bon, sans perdre de temps, maintenant. Et nous en avons la liberté, nous sommes responsables, il est possible de se libérer. Et le comprenant, entrant dans cette compréhension, vient une inspiration, une confiance, c'est possible, et c'est parti. C'est un premier petit pas, et un premier petit pas en amène un plus grand, pas à pas.
La semaine dernière, j'entendais un enseignement de Pema Chödrön aussi sur ce sujet-là. Et elle parlait aussi de l'habitude. On a beaucoup d'efforts à faire au départ pour créer une habitude qui va devenir de plus en plus facile aussi. On se trouve toujours toutes les excuses pour ne pas s'asseoir, mais si petit à petit on le fait, ça va être de moins en moins, il y a moins d'efforts à donner.
Tout à fait. Les habitudes se cultivent. Et ces quatre méditations fondamentales. Alors, on commence par cultiver l'habitude de les avoir présents à l'esprit, de s'en rappeler. Et elles transforment notre vie, notre façon de voir le monde. Elles ont un pouvoir libérateur. Et surtout dans la société de consommation, de consommation dans la société fondée sur l'avidité, sur la soif de possession. Ces méditations ont un pouvoir véritablement libérateur. Et facteur de libération au sens de non-attachement, au sens de libération de ce qui nous possède, et de bonheur. Donc, vive la liberté et vive le bonheur.
J'aurais une dernière question.
S'il vous plaît.
Une question de Benoît de Besançon. Quel sens donner à ces notions quand on perd un enfant qui est né après une semaine?
C'est un aspect, une situation triste de l'impermanence. On peut mourir n'importe quand. Un enfant peut être mort-né, peut mourir à la naissance, peut mourir juste après, ou dans la première enfance, deuxième, à tous les âges. Il n'y a pas à chercher un sens, comme si dans une conception théiste, on se disait, mais il était innocent, et pourquoi lui, ou qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour qu'il me punisse dans cette perte? Ça n'a pas vraiment de sens. Mais l'impermanence est une réalité. Il y a l'histoire d'une femme qui venait justement de perdre son enfant, un tout petit enfant. Elle l'avait décédé dans les bras et elle vient vers le Bouddha lui demandant, maître, pourriez-vous ressusciter mon enfant? Comprenez, regardez, et pleurant à chaudes larmes. Et le Bouddha lui a dit, ami, je comprends ce que tu me demandes. Pour cela, il faudrait que tu ailles me chercher des graines de sésame venant d'une maison où personne n'est jamais mort. Et la femme se mit en quête et partout où elle allait, des gens étaient morts. Et ça a duré longtemps. Elle n'a pas pu vraiment trouver un site de... Mais au fil de sa pérégrination, elle comprit la réalité de la mort, son caractère inéluctable, et elle se libéra, elle put faire le deuil de sa perte et de sa souffrance. Un moment de méditation, nous pourrions reprendre les quatre courtes phrases qui expriment ces quatre méditations. Lisez-les, simplement les lire. Prenez le bâton de parole. Et le refrain, c'est « Comprenons-le pour bien pratiquer l'enseignement de réalité ».
Cette précieuse vie libre et qualifiée est difficile à trouver, facile à perdre.
Comprenons-le pour bien pratiquer l'enseignement de réalité.
Monde et habitants sont éphémères, même moi, bientôt, je serai mort.
Comprenons-le pour bien pratiquer l'enseignement de réalité.
les actes et leurs fruits, blancs ou noirs, en soi mûrissent infailliblement.
Comprenons-le pour bien pratiquer l'enseignement de réalité.
Pour qui demeure en le samsara, il n'est aucun bonheur véritable.
Comprenons-le pour bien pratiquer l'enseignement de réalité. Et silencieusement, quelque temps. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonsoir à tous, que tout soit propice et au revoir.